Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner avec cette heure en français. Donc pour aujourd'hui, nous parlerons de sport, nous aurons l'économie comme chaque jeudi et nous parlerons à Lamine Sonko et son nouveau documentaire. Et tout de suite, c'est l'heure de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Origin Energy qui va accélérer à la fermeture de sa centrale électrique au charbon d'Erering. C'est dans la région de Hunter, en Nouvelle-Galles du Sud. Et les données de ABS qui montrent un taux plus élevé de décès pour le Covid-19 parmi les communautés de migrants en Australie. On vient de le voir en titre, hein. Origin Energy avancera donc de 7 ans la fermeture de sa plus grande centrale électrique de charbon, celle de Erering. C'est également la plus grande centrale électrique donc au charbon d'Australie. C'est à côté de Newcastle. À la suite des annonces similaires pour des installations d'AGL à Lidl et à Baywater. Dans la foulée, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé qu'il construira une batterie de transmission de 700 MW dans le cadre de sa réponse donc à cette fermeture et à la fermeture d'autres centrales électriques au charbon. Le gouvernement de l'État affirme que cette nouvelle batterie sera mise en place avant la fermeture donc, de cette usine en 2025 et qu'un plan social sera mis en place pour les personnes dont l'emploi sera donc menacé par cette fermeture. On écoute le trésorier de Nouvelle-Galles du Sud, Matt Keane, qui a déclaré que ce sera la plus grande batterie de l'hémisphère sud.
Je veux être très clair aux familles et aux entreprises à la maison. Le plan que nous avons développé en réponse à la fermeture de Erering will ensure that we can keep the lights on, put downward pressure on prices, and ensure that our system is stronger than it was before today's decision.
Voilà donc pour cette affaire de cette usine qui va fermer, usine de production électrique. La fin du masque, c'est aussi peut-être pour bientôt en France. Le ministre de la Santé français, Olivier Véran, laisse entrevoir cette perspective pour les adultes et les enfants. On l'écoute.
À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants dans tout ou partie des lieux fermés, y compris sans passe, et nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du passe vaccinal. Peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars, début avril, mais un palier de 15 jours, un palier de 2 semaines, comme nous le faisons depuis plusieurs mois.
Et c'était Olivier Véran, le ministre de la Santé français. Dans le Victoria, en Australie, donc, le Victoria annulera un bon nombre de ses restrictions restantes sur le coronavirus, alors que l'État voit sa vague Omicron continuer à s'atténuer. 9 personnes atteintes du Covid sont décédées dans ces dernières 24 heures, et les admissions à l'hôpital restent assez stables, avec 401 personnes donc, dans les hôpitaux dans le Victoria. À partir de 6 heures demain, les limites de densité seront supprimées dans les lieux d'accueil et de divertissement, tandis que les exigences d'enregistrement avec le code QR disparaîtront dans les commerces de détail, les écoles, les garderies et autres lieux de travail. Le Premier ministre donc, du Victoria, Dan Andrews, a déclaré que les règles des tests de surveillance Covid prendront fin pour les industries clés et les arrivées internationales qui ne seront pas complètement vaccinées n'auront besoin de se mettre en quarantaine que pendant 7 jours au lieu de 14.
But this is exactly what we said we would do. We would have rules on for not a moment longer than they were needed. And that's exactly what we've done. And despite some of the games and despite some of the kind of nonsense about this stuff, it is rational. It is about safety. It's about science. And it is about us doing exactly what we said we would do.
Voilà, donc Dan Andrews, le premier du Victoria. Plusieurs plages de l'est de Sydney ont été fermées après qu'un nageur ait été tué par un requin hier après-midi. Les services médicaux de la Nouvelle-Galles du Sud ont déclaré que le nageur était décédé des suites donc de blessures catastrophiques, je cite, lors de l'attaque à Little Bay, parce que les témoins disent était le plus grand requin brun qui a été vu depuis bon nombre d'années, un requin d'à peu près 4,5 mètres. Les plages de Little Bay, Malabar, Morumba, Coogee, Clovelly et La Pérouse ont été fermées pendant 24 heures et seront surveillées par des sauveteurs municipaux. Des témoins ont décrit l'attaque sur Channel 9.
Out of nowhere, we just heard and something come up, and it was just a big shark in the air, totally airborne, hit the guy very, very quick, and came back down, and yeah, we realized it was shark attack on a swimmer, just 10 meters off the rocks. We couldn't do anything about it.
There's a ledge out there that drops down, you can't see down the bottom, and they come out of nowhere sometimes.
Retour sur le Covid. Les hauts responsables de la santé affirment qu'un taux plus élevé de décès, donc du Covid-19, parmi les communautés des migrants australiens pourrait refléter une faible couverture vaccinale ou un accès médiocre aux soins de santé. Les données du Bureau australien des statistiques montrent que les personnes nées à l'étranger sont décédées du Covid-19 trois fois le taux des personnes nées localement après un ajustement en fonction de l'âge. Les personnes nées au Moyen-Orient et en Afrique étaient 10 fois plus susceptibles de mourir du coronavirus, tandis que celles nées au Royaume-Uni et en Irlande avaient un taux de mortalité similaire aux personnes nées en Australie. On écoute le médecin en chef de l'Australie, Paul Kelly, lors d'une audience sur les estimations du Sénat.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities. My colleague Dr. Dottocker may want to talk about what we've done in that, which has been a lot of working specifically with those communities. And this just highlights the issues of that, I think, and of socioeconomic issues as well that we're fully aware of and has been shown in other countries.
13h07, les conseillers de toute l'Australie ont lancé une campagne pour mettre en lumière le sort des demandeurs d'asile en attente de traitement de leurs demandes. Plus de 40 conseils de tous les États se sont associés pour lancer un appel à l'aide aux demandeurs d'asile, donc en attente de voir leurs demandes entendues, même dont beaucoup ont été privés d'accès à une aide de base. La campagne Back Your Neighbour est menée par Rhonda Garrard. C'est une conseillère de la ville de Greater Dandenong, donc dans la banlieue sud-est de Melbourne, qui souhaite mettre la question sous les projecteurs lors des prochaines élections fédérales. Selon elle, pas moins de 100 000 demandeurs d'asile vivent dans l'incertitude des visas de protection temporaire, certains même depuis plus de 10 ans.
In that time, they have absolutely no support. So these people are literally destitute. They have no financial support any longer. It's a decade of your life you don't get back. It's an enormous amount of time, and there's no end in sight. So, you know, there is no timeline being given of when these people will have their paperwork processed. So it's just an extension of this living in limbo, and that's enormously stressful.
Et c'était Rhonda Garrard, une des conseillères de la ville de Greater Dandenong. Les États-Unis ont soutenu les affirmations de l'OTAN selon lesquelles la Russie n'a pas éloigné ses troupes à la frontière avec l'Ukraine comme elle l'avait annoncé. Le ministre russe de la Défense a déclaré que ses forces se retiraient après des exercices dans le district militaire du sud et de l'ouest près de l'Ukraine. Mais l'OTAN affirme qu'il n'y a aucune preuve que ce soit bien produit. L'attachée de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les preuves suggèrent que les troupes russes se dirigent vers la frontière et non s'en éloignent.
I think as Secretary Blinken also said, the Russian troops remain massed in a very threatening way at the border. And he was responding, I believe, to a question, a good question, about whether they were delivering on what they had promised yesterday. And the answer was no. There's, you know, what Russia says, and there's what Russia does, and we're watching very closely what steps they're taking, but they remain amassed in a threatening way at the border.
Voilà donc pour la situation entre l'Ukraine et la Russie. Et pour conclure ce journal, direction la France, et ce n'est pas banal, pour inciter les jeunes à voter lors des prochaines élections présidentielles, une ONG a passé un accord avec l'application de rencontre Tinder. Les explications de Louis Augry.
Faire matcher la génération Z avec le vote, c'est l'objectif de l'application de rencontre Tinder qui veut inciter ses utilisateurs à se rendre aux urnes. Concrètement, à partir de ce jeudi, les 18-25 ans présents sur l'application verront apparaître des annonces pour vérifier les démarches à remplir en vue de la présidentielle. En cliquant, ils seront renvoyés vers le site de l'ONG A Voter qui se mobilise contre la malinscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, plus de 7 millions de Français sont mal inscrits. L'ONG le rappelle, être mal inscrit, c'est 3 fois plus de chances de s'abstenir et les jeunes sont particulièrement touchés par cette malinscription. Alors si Tinder décide de s'engager aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Les termes politiques apparaissent de plus en plus souvent dans les profils de ses utilisateurs en France. Il y a quelques jours, des militants des Jeunes avec Macron avaient même utilisé leur compte pour inciter à voter pour leur candidat. Tinder s'y était fermement opposé. Pas de campagne sur Tinder, l'appli préfère la sensibilisation. L'entreprise s'était d'ailleurs déjà engagée lors des élections américaines de 2020 ou plus récemment en Allemagne pour les élections fédérales.
Voilà, c'est le 21e siècle. 13h11, on va faire un coup d'œil météo pour conclure ce journal. À Perth, il va faire 37 degrés aujourd'hui. Adélaïde, 25. Melbourne, 24. Hobart, 22. Canberra, 31. Sydney, 31 degrés également. À Brisbane, 29. Cairns, 32. Et 32 degrés également à Darwin. On revient sur les grands titres de l'actualité de ce 17 février. Origin Energy qui va accélérer la fermeture de sa centrale électrique au charbon Dairying dans la région de Hunter en Nouvelle-Galles du Sud. Et on l'a vu également dans ce journal, selon les données des bureaux des statistiques, eh bien, un taux plus élevé de décès de Covid-19 parmi les communautés des migrants australiens. 13h11, on fait une courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord les JO de Pékin et un Français champion du slalom hier, Clément Noël. Un reportage de Christophe Diremzian sur place pour RFI.
Clément Noël est passé en une matinée du statut de slalomeur doué et prometteur à la consécration au cœur d'une saison sans hiérarchie bien établie sur la discipline. Mais le voir en or n'allait pas forcément de soi, tant ses résultats lors des courses de janvier avaient été décevants, ce qui ne l'a jamais découragé.
Le mois de janvier, il a été très mauvais, mais ces derniers temps à l'entraînement, ça allait bien, je sentais que ça revenait bien. Et ma deuxième manche, c'est vraiment le ski que je suis capable de produire quand je skie relâché, quand je skie bien. Et je suis assez fier d'avoir réussi à pas me poser 10 000 questions au moment où ça compte.
Les yeux rougis par l'émotion à l'écoute d'une Marseillaise lancée pour la première fois au jeu d'hiver en ski alpin depuis le sacre du descendeur Antoine Deneria en 2006, Clément Noël incarne un type de slalom offensif fait de trajectoires courtes et de prises de risques maximales pour Alexis Pinturo, 16e de l'épreuve.
Clément arrive avec une autre génération de skieurs plus jeunes qui arrivent à tourner extrêmement court autour du piquet, plus court que par le passé. Des nouvelles générations arrivent, amènent des nouvelles choses et en les voyant, ils poussent toujours un peu les codes. Et derrière, il y a des adaptations qui sont toujours amenées ou régulièrement amenées par les jeunes générations.
À 24 ans, le skieur vosgien a d'ores et déjà fait mieux qu'un de ses mentors, le double champion du monde Jean-Baptiste Grange. Il ne lui reste plus qu'à gagner en régularité pour en faire l'un des plus redoutés du circuit hivernal.
Et on écoute maintenant la réaction du champion de 24 ans sur RFI.
Avant d'arriver ici, je pensais pas trop, j'essayais pas trop me projeter, mais ces derniers jours, ouais, je me voyais bien, je me voyais bien gagner une médaille. J'avais très très envie de le faire en tout cas, donc c'était ouais un vrai objectif. J'avais envie de gagner l'or, c'est sûr. Après, une autre médaille, ça aurait été aussi, je pense. Mais là, c'est un moment fort fort. L'hymne, voir tous les coachs, tous les collègues qui sont hyper contents pour moi. J'ai même pu voir en webcam des amis de la maison et ma copine et tout, donc c'est vraiment top et forcément c'est super émouvant, donc ouais, c'est plein d'émotions qui se mélangent. Après, je pense que je réalise pas encore complètement parce que c'est quand même assez gros, ça me dépasse, donc voilà.
Mardi, le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté une 5e médaille avec l'équipe de France de biathlon, une médaille d'argent pour ajouter à sa collection. On l'écoute.
C'était encore un gros combat, un peu semblable au relais mixte. Pour ma part, j'étais un peu nerveux, un peu stressé en vue de ce relais. J'avais vraiment très envie de partager ça avec les copains. On est tous une belle bande de potes qui s'amusent bien ensemble. Et aujourd'hui, j'avais très 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 envie de les aider à aller chercher cette médaille-là. Donc c'est sûr, ça a été un peu tendu. Au niveau du pas de tir, ça n'a pas été spécialement facile, mais voilà, aujourd'hui, je me bats pas pour des records, pour aller chercher une médaille de plus ou de moins. Je me bats vraiment pour l'équipe et voilà, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de partager ça avec mes coéquipiers, mais aussi toute l'équipe qui nous suit. En tout cas, c'est des beaux moments de sport et voilà, très fier d'aller de nouveau rechercher une médaille en relais depuis 2006.
Et puis la Suissesse Corinne Sutter était en or pour la descente mardi. Christophe Diremzian, à nouveau, pour RFI.
Effectivement, ce n'est d'ailleurs pas une énorme surprise, ce podium à une exception près. Corinne Sutter, certes, est championne du monde en titre, vice-championne du monde 2019. C'est sa première médaille olympique pour la Suissesse qui a devancé de 16 centièmes l'Italienne Sofia Goggia, qui n'est autre que la leader actuelle de la Coupe du Monde de la spécialité et qui était la championne olympique sortante. Une belle opération pour Sofia Goggia quand on sait qu'elle était sérieusement blessée au genou et au péroné le mois dernier lors d'un super G. Elle a donc fait une course magnifique. Elle a devancé la grosse cote de ce podium, l'Italienne Nadia Delago, 57 centièmes de retard sur Corinne Sutter.
On passe au foot, la Ligue des Champions, avec tout d'abord mardi à l'aller le Paris Saint-Germain qui a battu le Real de Madrid 40 secondes avant la fin du match durant les temps additionnels grâce au but de Kylian Mbappé. Hugo Moissonnier était sur place pour RFI.
Le génie est sorti de sa lampe comme souvent, trop souvent, diront les mauvaises langues cette saison. C'est Kylian Mbappé qui est venu sauver le PSG, sauver entre guillemets. On filait tout droit vers un match nul 0-0, mais qu'il aurait été décevant ce score nul et vierge pour des Parisiens, vous l'avez dit Raphaël, qui ont largement dominé cette rencontre au point même de se procurer un pénalty à l'heure de jeu. Malheureusement, Lionel Messi, le fameux Lionel Messi, n'est pas parvenu à tromper l'incroyable portier madrilène Thibaut Courtois. Il a donc fallu cet exploit côté gauche individuel de Kylian Mbappé, son 22e but cette saison. Il a dribblé deux joueurs avant de placer ce ballon dans un trou de souris entre les jambes du portier du Real Madrid. 1-0 pour un PSG qui est en train de valider sa qualification pour les quarts de finale début mars à Madrid. Et puis des réponses aux interrogations sur Kylian Mbappé qu'on annonce en partance du PSG pour le Real Madrid, justement le club de ses rêves. Pour l'instant, il est bien à Paris, il est bien déterminé à mener le PSG au bout dans cette Ligue des Champions.
Et le match retour dans moins de 3 semaines à Madrid. On écoute maintenant la réaction de Mauricio Pochettino, le sélectionneur de Paris.
C'est un joueur incroyablement mature pour son âge, l'un des meilleurs du monde sans aucun doute. Il l'a encore montré aux yeux de tous, qui plus est dans une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions. J'ai la chance de travailler avec lui depuis un peu plus d'un an ici à Paris, de le voir évoluer au quotidien, et je peux vous le dire, c'est un crack.
Hier, le Bayern de Munich et Salzbourg ont fait match nul, 1-0. Liverpool a battu l'Inter Milan 2-0 avec Mohamed Salah qui a marqué son 8e but en Ligue des Champions cette saison. Mardi, Manchester City a écrasé le Sporting Portugal 5-0 avec une belle performance de Riyad Mahrez pour les Citizens. Un match amical, le match amical féminin hier entre la France et la Finlande et la victoire écrasante des Bleus 5-0. On passe au tennis avec Novak Djokovic qui a accordé il y a quelques jours une interview à la BBC et il a déclaré être prêt à rater les tournois, y compris les grands chelems, car il n'est pas vacciné. Écoutez un extrait de cette interview, Novak Djokovic.
Je n'ai pas été vacciné contre le Covid. Je soutiens entièrement la liberté de se faire vacciner ou non, mais je n'ai jamais été opposé à la vaccination. En tant qu'athlète professionnel, j'ai toujours été très attentif à ma nourriture, à l'eau que je bois, à tout ce qui entre dans mon corps. En étudiant les informations que j'ai pu recueillir, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner pour l'instant. Même si je garde l'esprit ouvert, parce que nous devons trouver la meilleure solution collective pour en finir avec le Covid. J'accepte les conséquences de ma décision. Et une des conséquences, c'était de ne pas aller en Australie. Je m'y étais préparé. Ne pas être vacciné aujourd'hui m'interdit de participer à la majorité des tournois. C'est le prix à payer. Et je l'accepte. Rater Roland-Garros et Wimbledon cette année, je l'accepte. Et j'accepte le fait de ne pas devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Mais je n'ai jamais dit que je faisais partie du mouvement anti-vax. Personne, pendant tout ce qui s'est passé en Australie, ne m'a demandé ce que je pensais de la vaccination. Je n'ai donc pas pu m'exprimer. Et c'est dommage que des conclusions erronées aient pu être tirées de tout ça.
Le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, déclare que Novak Djokovic pourrait revenir jouer à l'Open d'Australie en 2023, mais il devra être vacciné. Et puis le Victoria voudrait accueillir les Jeux du Commonwealth de 2026. En cas de succès, le chef de l'État, Daniel Andrews, a déclaré que les Jeux auraient une orientation plutôt régionale et il a déclaré que le gouvernement de l'État était en pourparlers exclusifs avec les organisateurs dans l'espoir que le Victoria puisse organiser ses Jeux pas comme les autres. Daniel Andrews.
Hopefully, this ends in the games coming here in 2026 them being like no other. Principally, because it's not just a handful of events in regional Victoria, this would be predominantly a regional Victorian Commonwealth Games. That's the point of difference. That's what's really special about this. And we're really pleased to have been able to enter this exclusive negotiating period.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et c'était les Rita Mitsuko, bien entendu, avec la voix tellement atypique de Catherine Ringer, communiqueur d'amour. 13h25, on fait une courte pause et on parle d'économie avec Jean-Noël et Nicolas Perpich, comme chaque jeudi.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on va bientôt peut-être devoir payer un peu plus cher pour l'essence.
Oui, tout à fait, même peut-être beaucoup plus cher. Et tout dépend vraiment de ce qui se passe en Ukraine. Et si la Russie fait la guerre et envahit ce pays-là ou pas. Là, déjà, on a vu que le prix de l'essence mondialement est à des niveaux qu'on n'a pas vu depuis à peu près sept ans. Et on a vu même juste hier soir que le prix est monté par 2%. Donc, déjà, on voit autour de l'Australie, en moyenne, on paye presque 1,77 $ pour un litre d'essence. Et ça, c'est selon le Australian Institute of Petroleum. Mais en Nouvelle-Galles du Sud, selon la NRMA, on va pouvoir voir le prix monter jusqu'à 180 centimes pour chaque litre, ou même plus dans les jours à venir. Et on voit déjà à Brisbane que ça a atteint 192 centimes le litre pour l'essence sans plomb. Donc ça ne va pas être joli. Et si, en fait, on voit la guerre qui commence là entre la Russie et l'Ukraine, il y aura d'autres problèmes parce que, bien sûr, les États-Unis et d'autres pays ont dit qu'ils vont introduire des sanctions sur la Russie. Et la Russie, qui est un des plus grands producteurs d'essence, de brut, donc on va voir le prix monter encore plus. Et sûrement, ça va dépasser les $100 américains pour chaque baril, ce qui est important. Et on espère qu'on va pas voir le prix ici atteindre $2 pour chaque litre, mais c'est une vraie possibilité. Il y a certains analystes qui pensent que oui, on va voir le prix atteindre même $120 américains pour chaque baril de Brent. Donc ça, c'est assez grave. On voit pas ça très souvent du tout. Et si ça, c'est le cas, ben on pourrait voir le prix ici dépasser les $2, $2.07, $2.10. Donc, si ça reste comme ça pendant quelques semaines, il y aura un impact sur le taux d'inflation ici en Australie. Donc, on n'espère pas que ça va durer longtemps comme ça, si ça se passe. Et bon, entre-temps, c'est important pour les gens de d'examiner un peu où il y a les stations de service à bon marché autour de où ils habitent. Et non seulement ça, mais de bien comprendre les jours où c'est moins cher, parce que bien sûr, il y a des cycles de 2 semaines ou des cycles d'une semaine, et un peu comprendre quand on est en bas du cycle et les prix sont moins chers. Mais déjà, on a vu des queues, des lignes de voitures qui sont là aux stations de service bon marché certains jours, souvent les lundis ou les mardis. Donc les gens qui attendent vraiment très longtemps déjà pour acheter de l'essence pas trop chère. Alors ça va pas devenir encore pire.
Et puis on parle d'une nouvelle ligne aérienne, et le nom ne pourrait pas être plus australien que ça.
Non, c'est tout à fait vrai, Jean-Noël. Donc le nom de cette nouvelle ligne aérienne, c'est Banza. Banza, tu vas me corriger, Jean-Noël, mais je crois que Banza en anglais ou en australien, ça veut dire quelque chose qui est vraiment très bien, quelque chose qui est Banza, ça veut dire que voilà, on est
jolly content good. De
ça. Jolly good. Banza, it's a Banza day, c'est une très bonne journée. Donc voilà, Banza qui se lance là, il y aura 7 destinations autour de l'Australie, plutôt la côte est du pays. Il y aura 25 routes et ça va être basé plutôt autour de Brisbane, mais aussi un peu Melbourne. Et c'est la première ligne aérienne domestique en Australie depuis Tiger Airways il y a 14 ans. Donc là, ils essayent de faire bouger un peu le marché avec des billets à très bon marché, et ils vont viser des destinations un peu différentes, des villes régionales, des centres touristiques, donc autour du Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, et des endroits où il y a pour le moment pas de vol, donc pas de lignes aériennes qui ont des vols pour ces 80% des destinations de Banza. Et le PDG de Banza, c'est Tim Jordan. Et il dit que les prix vont être à peu près les mêmes que Jetstar, donc à peu près la moitié de d'autres lignes comme Qantas ou Virgin. Par exemple, $50 pour un vol entre Sunshine Coast et Rockhampton ou Coffs Harbour, c'est à peu près une heure de vol, mais dans un sens. $75 ou $100 pour aller de Melbourne jusqu'au Sunshine Coast, donc vraiment pas trop cher. Et la plupart de leurs avions vont être basés au Sunshine Coast Airport, mais aussi la deuxième base sera à Melbourne et pas à Sydney, parce que Sydney c'était trop cher, ils n'ont pas pu trouver d'accord vraiment pour utiliser Sydney. Alors voilà, il y aura toute une série de villes comme Albury, Bundaberg, Cairns, Coffs Harbour, Gladstone, Toowoomba, Whitsunday Coast, donc plein d'endroits intéressants. Et on va voir comment ça marche. Mais ils disent que plus tard, ils vont cibler Sydney, mais rien pour le moment pour la Tasmanie, l'Australie du Sud, le territoire du Nord, et ni bien sûr l'Australie occidentale, qui vraiment est très très loin du Sunshine Coast. Donc là, il faudra peut-être attendre assez longtemps, on pense.
Bonza, merci Nicolas,
et merci, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Je veux la même chose que toi. Donne-moi juste un peu de temps. Je suis désolé pour les fantômes, désolé pour les fantômes.
Et c'était Clio et Benoît Doremus, désolé pour les fantômes, qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de février. Allez, 13h37, on fait une courte pause et on parle à Lamine Sonko, un ami du programme. Il nous présente eh bien, son nouveau documentaire qui sera à un moment ou un autre qui jouera à l'ACMI. Mais il nous en parle, le documentaire est terminé, il est venu nous en parler avec Jean-Noël tout de suite après ça.
Eh bien, le plaisir d'avoir sur les ondes de SBS French Lamine Sonko, qui est directeur artistique, musicien, compositeur. Et je sais que vous êtes venu à plusieurs reprises sur SBS French pour parler surtout de musique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël, merci beaucoup pour l'opportunité.
Et aujourd'hui, on parle d'un documentaire qui s'appelle Dupe. Ce documentaire qui va avoir une première mondiale au SCMI de Melbourne, donc à la Cinémathèque de Melbourne, à Federation Square. Et vous, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Lamine. Expliquez-nous ce que vous avez filmé.
Oui, ce documentaire a été filmé juste avant la pandémie. J'étais au Sénégal avec une productrice qui s'appelle Olive Monahan, qui est d'origine nouvelle-zélandaise. Ensemble, on est allé au Sénégal pour revisiter le savoir de nos ancêtres à travers les Gueul du Sénégal. Et Gueul, c'est le nom connu par les Wolofs, qui veut dire guerrier en français. Donc, j'étais allé au Sénégal pour revivre. Le savoir des Gueul du Sénégal qui est aussi qui fait partie aussi de mon histoire. Donc on était là-bas pour 3 mois pour filmer ce documentaire qui s'appelle Dup. Et Dup en Wolof ça veut dire retour. Donc ce documentaire nous parle du retour aux sources pour vraiment donner un appel à la nouvelle génération des Sénégalais, ou plus particulièrement d'Africains, de retourner aux sources de nos ancêtres. Et c'est ça l'objectif de ce documentaire.
Alors, parlez-nous un petit peu du Sénégal, où vous avez grandi. Je crois que vous avez quitté le pays à l'âge de 19-20 ans pour venir en Australie.
Oui, en 2004, je suis arrivé en Australie pour terminer mes études à Victoria College of the Arts. pour faire mes études de community développement communautaire. Et après cela, j'ai décidé de rester ici pour continuer ma carrière artistique. Et vraiment, c'est ça. Le Sénégal me manque beaucoup parce que là-bas, je suis venu. Je viens d'une famille d'artistes, de griots qui portent le mémoire de nos ancêtres. Et à travers les rythmes, les chansons, j'essaie de partager la vie des griots ou des guéoles du Sénégal. Et c'est ma vie à ce moment ici en Australie aussi. J'essaie de le faire à travers la musique, le cinéma, etc.
Parlez-nous un petit peu des griots pour éclairer nos auditeurs ici en Australie. Ces griots qui aident à transférer la mémoire d'une génération à l'autre, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les griots sont, comme tu viens de le dire, c'est les gardiens du savoir de nos ancêtres. Et dans ce documentaire, c'est ça que je suis. J'ai allé au Sénégal pour partager des moments intéressants et des moments très importants avec des grands guéoles du Sénégal, des griots qui m'ont vraiment guidé dans un monde métaphysique où on apprend à travers les rythmes, les chansons et les danses de rituels, on apprend des langages cachés dans ces rythmes. Parfois, on ne voit pas ces histoires dans des écritures. C'est seulement des histoires que tu apprends si tu viens d'une famille de griots, parce que les rythmes contiennent des messages. Et ces messages, c'est des messages codés par nos ancêtres qui nous aident à voyager dans un monde métaphysique où on visite des mondes parallèles, si je peux dire, des mondes parallèles des esprits, la nature et aussi le cosmos. Et c'est ces idées que je partage.
Ce documentaire va être projeté alors que ce matin même, le Sénégal vient de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une très belle finale. Moi-même, je l'ai vue ce matin. Et est-ce que vous avez pu vivre ce moment historique vous-même?
Oui, je suis au téléphone. J'étais au téléphone avec la famille. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour regarder le match. Et tout le Sénégal était avec moi ici virtuellement. Par téléphone, on regardait le match ensemble et vraiment, je suis très ému de voir le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique parce que vraiment, ça fait plus de 60 ans qu'on attendait ce moment-là. Et vraiment, de voir tout le Sénégal très content, ça m'a vraiment, je suis vraiment ému de voir ce moment. Oui, oui.
Je reviens à votre documentaire Dupe qui sera projeté le 24 février prochain. Et après la projection de ce documentaire, il y aura un concert que vous allez donner et vous serez accompagné par d'autres musiciens sur scène.
Oui, parce que ce documentaire Dupe, ça fait partie d'un très grand projet que je suis en train de développer à ce moment qui s'appelle 13-12. 13-12, c'est un projet multidimensionnel qui a beaucoup de facettes que j'essaie de partager le savoir des anciens à travers la musique, les rythmes sacrés. Quand j'ai fait la production de ce documentaire, j'ai aussi créé des musiques qui va avec. Et ces musiques-là, j'ai fait des collaborations avec des musiciens qui vivent ici à Melbourne, qui fait la musique classique. Donc, je suis en train de faire une collaboration avec la Kora, de l'Afrique de l'Ouest, avec la musique classique, pour créer un mélange culturel qui véhicule des messages qui nous fait connecter de l'Afrique ancienne à travers la musique.
Et Lamine, les concerts reprennent au fur et à mesure en Australie après 2 ans de restrictions sanitaires à cause de la pandémie. Et comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, avez-vous vécu cette période douloureuse?
Oui, la pandémie nous a vraiment bouleversé tous nos programmes artistiques. Comme tu le sais, toutes les salles de spectacle, les salles de cinéma ont été fermées pour très longtemps. Et ça nous a aussi permis d'ouvrir d'autres idées. De aussi créer d'autres idées et aussi d'utiliser ce moment pour faire des réflexions, hein. Et à travers ces réflexions, c'est ça qui m'a poussé de retourner au pays, et de faire des recherches, qui anthropologie sur l'anthropologie ou l'histoire de l'Afrique et essayer de le partager dans les autres formes. Et c'est ça qui m'a poussé de vraiment commencer à produire des films pour parler de nos histoires à nous-mêmes, hein. Parce que vraiment comme on le sait, l'histoire des griots a été racontée par beaucoup d'autres qui sont pas des griots et qui comprenaient pas beaucoup les messages codés dans des rythmes qu'on a appris pendant longtemps. Donc, ce moment avec la pandémie m'a donné l'opportunité de retourner aux sources, comme le titre du documentaire, et de vraiment revisiter la mémoire de nos ancêtres. Et c'est ça qui m'a un peu aidé avec la pandémie, de faire ce travail sur le cinéma, mais pour dire la vérité, la pandémie nous a vraiment bouleversé tous les programmes et c'est un peu difficile pour le monde artistique.
Et j'imagine, Lamine, que maintenant vous avez plein d'idées en tête et vous avez beaucoup de projets pour le reste de 2022.
Oui, c'est ça. Ce documentaire d'UP, c'est la première partie de nos du programme que je suis en train de partager. Et après cela, après le 24 février, je vais commencer des enregistrements à les studios avec les musiciens qui font la musique classique, hein, pour essayer de produire un nouveau album qui parle de la même concept de ce documentaire. Et il y a ça aussi, et aussi je suis en train de préparer de retourner au pays, parce que il y a aussi d'autres projets que je dois faire là-bas avec l'université Cheikh Anta Diop. Il y a des académiciens qui sont vraiment en connexion et qui sont vraiment qui aiment vraiment ce documentaire d'UP que j'ai présenté le recherche quand j'étais à Dakar. Donc c'est ça le programme, c'est de finir ce documentaire, présenter ce documentaire, entrer dans le studio et après retourner au pays pour continuer le projet.
Lamine Sonko, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French et nos meilleurs voeux pour la projection de DUP. Merci encore une fois.
Merci Jean-Noël, c'est gentil, merci.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Les garçons, trois petits tours. Et... Ouais, c'était C'était Nos Amours Heureux d'Aurélie Sada qui fait partie de notre sélection musicale, encore une fois, pour le mois de février. Allez, 13h55, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité en cette fin de programme sur SBS. Dans l'actualité, le titre principal, c'est Origin Energy qui va donc accélérer la fermeture de sa centrale électrique au charbon, centrale Deering dans la région de Hunter en Nouvelle-Galles du Sud. C'est la plus grande centrale électrique au charbon d'Australie. Les données du Australian Bureau of Statistics qui démontrent que le taux de décès pour le Covid-19 est plus élevé parmi les communautés de migrants australiens et en France. Le port du masque qui pourrait tomber d'ici au mois de mars, c'est le ministre de la Santé Olivier Véran qui l'a annoncé. C'était donc Odette avec « Laisse tomber les filles ». C'était une chanson qui a donc eu lieu au So Frenchy So Chic le week-end dernier. Quel beau moment. Il est 13h58, on va se dire au revoir. Avant, je vous rappelle notre site internet sbs.com.u/french. Je vous rappelle notre Twitter, notre Facebook qui sont disponibles. Vous pouvez nous contacter à travers donc, ces deux réseaux sociaux. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, et bien, ce sera avec Marianne samedi et ce sera avec Jean-Noël dimanche également. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À samedi.
Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.